Le carême avec les saints du diocèse de Tarbes et Lourdes. Une chronique proposée par Anne-Rose Jankovic et le père Benjamin Martin.
Cette semaine, troisième semaine du temps de carême, nous vous proposons le compagnonnage de Saint-Exupère. Bonjour abbé Benjamin Martin.
Bonjour Anne-Rose, bonjour chers auditeurs.
Saint-Exupère, alors nous voilà déjà rendus à la fin du IVe siècle. Nous avons fait un petit bond dans l'histoire depuis la semaine dernière. Saint-Exupère qui est vraiment un enfant des Vallées d'Or et d'Ouloron. Est-ce que, avant de nous raconter son histoire, vous pouvez nous situer le saint dans le contexte géographique et un peu politique du moment?
Exupère est né à Arreau. Arreau, dans la Vallée d'Or et d'Ouloron, comme vous venez de le dire, au sein d'une famille déjà chrétienne, qui va recevoir une instruction. Et devenant prêtre, il va devenir le cinquième successeur de Saint Cernin, donc cinquième évêque de Toulouse. Mmh. Le contexte du IVe et du Ve siècle, c'est la fin, pourrions-nous dire, la fin. Au IVe siècle, c'est vraiment la grande persécution en 303. En 313, c'est une date importante pour l'Église, c'est l'édit de Milan. C'est-à-dire, on est sous l'empereur Constantin, sa mère Sainte-Hélène qui était chrétienne, et son fils qui devient véritablement chrétien, c'est le premier empereur devenant chrétien, qui donne du coup une possibilité aux chrétiens de ne pas être des sous-citoyens de l'Empire, mais d'être de plein pied des citoyens romains, pas montrés du doigt et plus persécutés. Ce qui veut dire qu'ensuite de cela, il va y avoir une liberté de culte, et donc une paix. Une paix qui va rendre possible l'organisation de l'Église, mais aussi, parce que du coup c'est un temps de paix, c'est-à-dire pas de guerre physique ou de martyrs, le temps aussi de controverses théologiques. C'est l'époque où on va se poser beaucoup de questions sur la nature du Christ, sur la Sainte Trinité, avec notamment en 325 le Concile de Nicée, dont nous faisons cette année un glorieux anniversaire. Donc c'est à la fois un temps de controverses théologiques, mais qui est nécessaire pour véritablement arriver à cette vérité. Est nécessaire parce que toutes les questions que l'on se pose et auxquelles il faut répondre manifestent l'approfondissement de notre foi et l'assistance du Saint-Esprit qui a une mission, nous conduire vers la vérité tout entière. L'Esprit-Saint assiste l'Église dans ce désenveloppement de l'unique dépôt du Christ de qui nous avons reçu la foi. Tout est donné, mais il faut ensuite le désenvelopper dans le temps. Il n'y a aucune nouveauté, mais il faut pouvoir avoir les mots de la foi. Il faut avoir aussi le contexte philosophique nécessaire pour pouvoir parler d'une double nature, dans le Christ. Il est à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme. Il faut structurer tout cela, d'où la grande proclamation de foi du credo de Nicée, puis un temps après de Constantinople, où on va du coup la développer le Saint-Esprit. Un temps donc de pacification un temps de pacification du point de vue guerrier des choses, mais un temps aussi du coup de controverses théologiques.
Parce que l'Église doit bien se structurer aussi.
L'Église a le temps de s'intéresser véritablement à la foi, à la doctrine et à ce que l'on transmet. Et c'est aussi, parce que c'est du coup un temps plus paisible, un temps de structuration du christianisme avec du coup l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui diocèse et une organisation avec des paroisses. Ça va être aussi le début du monachisme, donc l'institution de vie véritablement religieuse. Et de tout cela, Exupère, cinquième successeur de Saint Cernin, est véritablement l'homme de son temps.
Alors ça, c'est un petit peu la vocation de chaque évêque aussi, d'être de devoir mettre son nez dans les problèmes de son temps.
Tout à fait. Durant son épiscopat, que va faire Exupère? C'est l'un des points essentiels du temps. L'heure n'est plus aux persécutions des martyrs. En revanche, l'heure est au culte des martyrs et à l'instauration de ces sanctuaires pour accueillir les pèlerins. On a dit, il y a 15 jours, au sujet de Saint Cernin, que sur son tombeau, plusieurs ont commencé à bâtir des églises. Et là, voilà que Exupère, lui, va terminer sous son épiscopat la construction de la basilique, la consacrer, permettant aux très nombreux pèlerins d'aller vénérer Saint Cernin. Ça montre bien que le culte que l'on vouait à Saint Cernin était présent. Il est l'intercesseur entre cette terre et le ciel auprès du bon Dieu. Donc là, il instaure ceci qui est très important à cette époque-là.
Où c'est important d'avoir des lieux pour vénérer, pour se rassembler,
pour accueillir les pèlerins, parce que tout cela est le support de la foi. Mm. Donc, Exupère finit donc ses différents travaux et il va être confronté localement, par des confrontations théologiques, aux questions de son temps pour lequel il va consulter notamment le pape Innocent Ier. Donc on voit bien là, l'Église qui est vraiment mise en place, hein, un évêque qui a des problèmes doctrinaux dans son diocèse et qui demande au successeur de Pierre quel éclairage apporter, quelle réponse donner
à
tel ou tel prêtre. Alors, le prêtre Vigilance, donc, qui était un prêtre sous la juridiction d'Exupère, contester publiquement dans ses prédications, par exemple, le culte des martyrs et leurs reliques. Et donc, on comprend que pour Exupère, qui fait bâtir, enfin, qui finit de bâtir, qui consacre et qui encourage les pèlerins à avoir recours à l'intercession de Saint-Cernin, il est pris publiquement. Ensuite, qu'est-ce que va contester ce prêtre Vigilance? Et vous allez voir qu'avec nos auditeurs, rien de nouveau sous le soleil, il va contester Vigilance le célibat sacerdotal et la pratique du jeûne. La pratique du jeûne, nous sommes dans le temps du carême, hein, l'Église qui se structure, même en temps de paix, n'abandonne pas une certaine ascèse. Et Exupère, justement, va manifester, de par sa prière, un esprit aussi ascétique. Notamment lorsque la ville de Toulouse va être en siège, il va s'efforcer, lui, de donner. Et de donner constamment à manger, ne mangeant pas lui-même. Donc, il y a déjà ces points-là, le célibat sacerdotal, donc on voit que c'est déjà une pratique qui est bien en cours dans l'Église, puisqu'elle est contestée. C'est qu'elle existe et qu'elle est véritablement l'idéal.
Et que probablement, il n'est pas le seul évêque à faire face à ces questions-là.
Non, c'est vraiment, voilà, c'est des questions qui émergent vraiment à ce moment-là. Comme, voilà ce qu'on va aussi contester, Vigilance, la profession monacale. C'est-à-dire, sous Saint-Exupère, son épiscopat, il va y avoir la constitution de communautés religieuses. Depuis les débuts du christianisme avec Saint Antoine du désert en Égypte, il y a cette idée, comme Jean-Baptiste, de se retirer du monde, de vivre dans le désert, de vivre de Dieu seul dans la prière et de véritablement se donner aussi à la pénitence pour obtenir la vie éternelle.
Alors, c'est le modèle.
C'est le modèle.
C'est un petit
le modèle, voilà. C'est le modèle véritablement d'une vie un petit peu parfaite.
Ouais.
Hein, du chrétien qui vraiment ne vit que de Dieu seul. Et donc, ça habite forcément le désir de sainteté. Pour être saint, il faut donc un peu se retirer du monde. Il faut vivre d'une certaine ascèse dans la prière.
Et Saint-Exupère défend cela ou lui-même, il a soif de cela pour sa propre vie?
Les deux, chère Anne-Rose. C'est-à-dire que, en tant qu'évêque, donc, il est occupé à la gestion de sa vie, de ses prêtres. Il ne peut pas s'isoler, bien que, hein, il va retourner à Arreau à un moment donné parce que, voilà, il est peut-être fatigué aussi de cette tâche laborieuse.
Oui.
Entre toutes ces différentes occupations, il veut se donner davantage à Dieu dans la prière, mais de Arreau, on vient le rechercher pour qu'il retourne gouverner sa ville de Toulouse. Mais effectivement, à la fin de sa vie, Exupère, qui aura permis l'élaboration de premières communautés religieuse et monastique, va se retirer à Blagnac. Hein, c'est vraiment l'idéal de sainteté, se retirer du monde et de ses querelles pour se consacrer à Dieu et à la contemplation.
Donc, on est à la fois dans un contexte plus calme, mais en même temps avec de vrais défis pour l'Église et puis pour la vie de foi aussi, pour exactement savoir eh bien, ce que le Christ veut pour nous, pour son Église.
Tout à fait, ça va être l'émergence, quelques siècles après, véritablement, de cet idéal monastique, de tous ces grands monastères. Nous pensons à Cluny, nous pensons à cette vie bénédictine, à ensuite même ces chartreux qui vont vivre cette vie érémitique. Eh bien voilà, déjà, hein, cet idéal qui est déjà dans le cœur de la première communauté chrétienne, avec l'image de Saint Jean-Baptiste, hein, ne vivre que de Dieu seul.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a des témoignages qui peuvent nous aider à dire que Exupère, malgré son désir de vie monacale, a été heureux comme évêque, a pu trouver du bonheur dans cette vie épiscopale?
Oh, j'imagine volontiers que Exupère a été heureux.
Avec le tumulte que vous venez de nous raconter.
Pourquoi? Parce qu'il a répondu à la vocation du bon Dieu.
Ouais.
Et quand on répond à ce que Dieu veut, il y a forcément une dimension de bonheur, qui n'est peut-être pas un bonheur de tous les instants, mais quand on est là où le bon Dieu veut que l'on soit, eh bien on rayonne malgré les épreuves et les difficultés. De même en est-il du Seigneur. Était-il heureux du temps de son incarnation? Ben, il a eu des moments de grande joie. On voit aussi dans l'Évangile les exaspérations parce que les manques de foi sont là, même parfois chez les disciples. Mais je pense qu'il est heureux d'être là. Mais même dans cette joie, il y a la croix. C'était un vieux proverbe de l'Église primitive. In laetitia, nulla dies in ecce. Et même dans la joie, il n'y a pas un jour sans la croix. Et donc, Exupère a été heureux comme évêque, bien sûr, mais la croix, comme pour vigilance, hein, pour un évêque, avoir un prêtre comme ça qui conteste la doctrine et qu'il va devoir condamner à l'exil, c'est pas non plus de gaieté de cœur. Puis, il faut penser les blessures dans le peuple de Dieu, de toutes ces choses qu'il a pu dire et qu'il a pu commettre. Et en même temps, Exupère a pu être heureux aussi dans sa prière, mais aussi dans une amitié avec Saint Jérôme. Alors, Saint Jérôme, c'est une grande figure, c'est un père de l'Église latine, un homme très instruit, parce que je crois qu'aussi la joie d'Exupère dans cette correspondance avec Saint Jérôme, c'est la joie de découvrir le Christ dans les Saintes Écritures.
Voilà, c'est un intellectuel également. Dans quel lieu peut-on se rendre, pardon, pour vénérer Saint Exupère? Quels sont les lieux vraiment où sa mémoire est présente?
Alors, il y a Arreau. Le village d'Arreau, dont il est natif, qui a un bras reliquaire, hein, qui est vraiment une main bénissante, un très vieux reliquaire de l'époque médiévale, dans lequel il y a un fragment d'os. Donc ça, c'est conservé dans l'église d'Arreau. Dans cette même cité d'Arreau, il y a un peu plus loin de l'église une chapelle vraiment dédiée à Saint-Exupère, mais la grande basilique, qui est un peu la basilique aussi reliquaire de notre sud apostolique, c'est la basilique Saint-Cernin, qui en plus de Saint-Cernin comprend un grand nombre de reliques, y compris des reliques de notre cher Saint-Exupère.
Quel est enfin l'héritage spirituel et les vertus dont on peut s'inspirer pour cette troisième semaine de temps de carême?
Eh bien, nous pouvons demander à Saint-Exupère d'avoir ce même amour qu'il habitait pour les Saintes Écritures, de cultiver en nous aussi ce même désir qu'il avait de se donner au Christ dans cette vie de prière, mais aussi on voit il a été défenseur de la pratique du jeûne et le Seigneur nous a invités dans ce temps du carême à jeûner, c'est-à-dire à se priver pour pouvoir véritablement comprendre que l'on a faim de Dieu. Donc c'est ce qu'on peut demander à Exupère, de lui demander aussi bien de nous aider, comme lui, bien de pouvoir affronter tous les débats de son temps et comme vous l'évoquiez, de pouvoir être heureux là où le bon Dieu nous a envoyés.
Merci beaucoup, Abbé Benjamin Martin. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la quatrième semaine de carême. Nous serons avec Saint Savin qui nous accompagnera pour ce temps de carême. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, chers auditeurs. Anne-Rose, au revoir.